semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver comme chaque samedi. Merci de votre fidélité. Je vous salue, vous qui êtes de l'autre côté du micro. Ensemble, nous allons revivre 7 jours d'actualité avec bien sûr les reportages de la rédaction. Nous partirons pour l'Afrique dans la seconde partie de l'émission, au Mali bien sûr, après l'attentat de Bamako il y a une semaine. Rendez-vous également avec vos messages. Je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver, écouter quand vous le souhaitez, cette émission en la podcastant tout simplement sur le site de la radio www.rfi.fr. Cette semaine, et comme souvent dans cette émission, notre invité est journaliste, mais aussi cette fois-ci écrivain voyageur ou écrivain tout court. Elle s'appelle Marie Devarnet. Elle s'intéresse de très près à l'Irak. Et vous avez écrit, Marie Devarnet, Chrétien d'Orient, un livre que j'ai sous les yeux, Voyage au bout de l'oubli, publié chez François Bourin. Bonjour Marie Devarnet.
Bonjour, hein, Pierre-Edouard Deldic.
Merci d'être à ce micro. Je sais que vous êtes un peu intimidé, mais vous, dès qu'on va parler d'Irak, à mon avis, vous allez parler.
Oui, ça va partir.
Parce que c'est un pays que vous suivez depuis longtemps.
Depuis très longtemps, oui. Depuis au moins 30 ans.
Depuis la première guerre du Golfe, il me semble.
Oui, depuis la fin de la guerre d'Irak contre l'Iran. Oui. Voilà.
Ah oui, même avant la première guerre du Golfe.
Oui, oui. Ben, en général, cette guerre Iran-Irak, on la qualifie de première guerre du Golfe. Et les deux autres, 2 et 3. Parce que, contre l'Iran, c'était l'Irak qui était l'agresseur, mais l'Irak était déjà victime.
Il faut rappeler, Marie Devarnet, que cette guerre entre l'Iran et l'Irak était une guerre de tranchées qui a duré des années, qui a été très sanglante.
Qui a duré 8 ans, et ça a été déjà épouvantable pour la population.
Alors,
déjà.
Vous intéressez à l'Irak, premier livre, L'Irak du silence, chez Balland en 1992, Parfois le silence est une trahison, chez Anne Carrière en 2009, et ce livre sur les chrétiens d'Orient qui va être au cœur de notre entretien, les chrétiens, c'est l'Irak qui vous a conduit à parler
absolument,
des chrétiens, j'imagine.
Oui, absolument, parce que les chrétiens sont une résultante de la politique étrangère menée en Irak. Voilà. Il faut absolument pas s'étonner, c'est pas tout d'un coup comme ça que des intégristes sont nés et se sont mis à détester les minorités. Non, c'est un processus qui a été extrêmement long.
Alors partons tout de suite, on va recommencer notre voyage dans l'actualité, toute l'actualité internationale, surtout dans cette émission. Vous connaissez le principe, parce que je sais que vous écoutez l'émission. En plus, on va partir tout de suite pour l'Argentine, après l'accident d'hélicoptère qui lundi a coûté la vie à 10 personnes, dont 10 Français, parmi eux 3 sportifs de renom, Florence Artaud, Camille Muffat et Alexis Vastine, lors d'un tournage d'une émission dite de télé-réalité pour la première chaîne de télévision française, TF1. Correspondance de Buenos Aires, signée Marine de la Moissonnière, mardi.
Des images impressionnantes qui montrent les deux hélicoptères se rapprochant, puis volant l'un à côté de l'autre, très près à quelques mètres, l'un un peu en dessous de l'autre, avant le terrible choc. Cette vidéo a permis de faire avancer un peu l'enquête. Deux hypothèses semblent maintenant se dégager. Luis Angulo, secrétaire de la sécurité de la province de La Rioja.
Les habitants de la zone disent avoir vu l'un des hélicoptères percuter l'autre. Les images et les vidéos confirment cette collision. On dirait que le pilote n'a pas vu l'autre appareil. Apparemment, il s'est passé quelque chose dans les airs. Soit un problème avec le pilote, soit un courant d'air ascendant a poussé l'hélicoptère contre l'autre.
Les corps ont tous été récupérés. Ils ont été transportés à la morgue de La Rioja où ils devront être identifiés. Les dépouilles des deux pilotes seront autopsiées pour détecter un éventuel problème de santé, des traces de drogue ou d'alcool. Les autres sportifs et les membres de l'équipe de tournage qui ont assisté au drame seront entendus par la justice. Le présentateur de l'émission, Louis Baudin, a indiqué sur RTL que tous resteraient pour les soutenir.
Jours dans le monde.
Et parlons tout de suite des chrétiens d'Orient, Marie de Varney. Monseigneur Jean-Benjamin Sleiman, l'archevêque de Bagdad, était à Paris ces derniers jours. L'occasion pour Sami Boukhalifa de le rencontrer et de parler des chrétiens d'Irak, précisément.
Archevêque de Bagdad depuis 2001, Monseigneur Sleiman a vu sa communauté presque disparaître. Un exode forcé pour les chrétiens d'Irak, d'abord à cause de la guerre civile, et puis l'été dernier, la menace djihadiste. Une épreuve douloureuse pour ce religieux qui garde la foi mais perd tout espoir.
Ce qui arrive sur le terrain est très dangereux et ne suscite pas d'espoir. Hein. L'espérance n'est pas morte. L'espoir, oui. L'espérance est une vertu que Dieu donne. Elle vient du Seigneur. Alors l'espoir, c'est un sentiment humain.
Originaire du Liban, Monseigneur Sleiman refuse de quitter Bagdad et d'abandonner le peu de familles chrétiennes qui vivent encore dans la capitale irakienne.
Si vous pensez au péril que vous menacez, vous êtes un peu paralysé et vous ne faites plus rien. La peur vous paralyse. Donc je préfère ne pas m'y arrêter. Mais dans notre vie quotidienne, dans notre vie tout court, on sent qu'il y a quelque chose qui lutte contre la présence des chrétiens.
Lors de sa tournée française, Monseigneur Jean-Benjamin Sleiman demande un soutien. Il appelle l'Occident à prendre ses responsabilités vis-à-vis des chrétiens, minorité religieuse d'Irak.
Il faut rappeler, Marie de Varney, qu'en Irak, où l'État islamique contrôle de larges pans de territoire, on le sait, le nombre des chrétiens est passé d'1,5 million en 2003 à moins d'un demi-million, c'est ça?
Oui, absolument. Mais cet homme est très courageux. Vous n'imaginez pas le courage inouï qu'ont les Irakiens, tous confondus, parce que je pense aussi aux musulmans. Ces gens sont en survie permanente. Et vouloir rester dans un contexte pareil, c'est plus que du courage, c'est même quelquefois faire don de sa vie.
Alors il y a les chrétiens d'Irak que vous connaissez bien, il y a aussi les chrétiens de Syrie. Il faut rappeler que quelques 220 chrétiens assyriens ont été enlevés le mois dernier, en février, tandis qu'à la mi-février, l'État islamique diffusait une vidéo montrant la décapitation en Libye de 21 coptes égyptiens enlevés un mois plus tôt.
Oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces gens qui ont été décapités, ils avaient la blouse de Guantanamo. En fait, cette blouse orange.
Mmh. Et, qu'on ne peut pas manquer, effectivement.
Qu'on ne peut pas manquer. Mmh. Et ça, c'est une réponse directe à tout ce qui leur a été fait. Alors bon, c'est terrible parce que les chrétiens sont pris comme bouc émissaire alors qu'ils ont subi les guerres américaines comme les autres. Ils n'ont pas été particulièrement protégés pendant cette période-là. Mais voilà, c'est ça le message que Daesh envoie.
Oui. Vous écrivez dans un papier de Libération que les chrétiens d'Orient sont, pour vous, les nouveaux hérétiques.
Oui, absolument.
Enfin, pour l'organisation de l'État islamique.
Oui, oui. Mais vous savez, pour s'établir, pour décréter déjà qu'on est un État, il faut faire bloc et discriminer. Nous, on est très sensibles au fait que les chrétiens le soient, mais les yézidis le sont aussi. Je veux dire, hors de l'islam, point de salut. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et parce qu'ils ont décidé une fois pour toutes d'instrumentaliser la religion pour se mettre en place et pour perdurer.
Alors une fois encore, Marie de Varney, on a l'impression que la communauté internationale, avec les guillemets de rigueur, a pris un peu de retard dans sa prise de conscience de cette question. Mais enfin, il faut souligner quand même qu'à l'initiative de la France, le Conseil de sécurité va se réunir le 27 mars prochain pour examiner cette question des chrétiens d'Orient.
Oui, je la trouve très indifférente, très lente, très... Les gens, il faut combien de morts encore pour que les gens bougent ? C'est ça qui est terrible. Moi, j'ai dénoncé ça depuis 2003. Personne n'a bougé.
Pourquoi vous l'avez dénoncé de 2003? Parce qu'il y avait déjà des signes, selon
vous.
Oui,
il y avait des signes précurseurs, bien sûr. Vraiment, là, il y a eu un moment où ils ont dit les États-Unis, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible, on ne peut plus composer avec eux. Ces gens sont en train de nous flouer, de nous déposséder, et ce sont des corrompus. Voilà, il y a eu une montée de la haine, mais il faut voir, c'était la troisième guerre.
Donc, sur fond, évidemment, de rivalité, pour ne pas dire plus, chiite-sunnite.
Voilà, mais Ça, c'est venu après. Vous savez, il y a, comme j'explique dans l'IB, c'est une grille de lecture, ça. Parce que le principe américain, c'est de diviser pour mieux régner. Donc, on s'est souvenu tout d'un coup qu'il y avait des communautés différentes, etc. C'est vrai que Saddam Hussein s'appuyait sur les sunnites, mais c'était pas aussi clivant qu'on a bien voulu le dire. Et donc il y a eu un moment où vraiment il y a eu une indignation beaucoup plus unanime que ça. Et après, justement, les États-Unis ont dit bon, enfin les états-majors, c'est toujours la même chose. Hein, je parle pas de la population. On dit bon, ben puisqu'il en est ainsi, nous allons négocier avec les Kurdes d'une part et avec les chiites et non plus avec la minorité dominante qui était les sunnites.
Mais les chrétiens, Marie de Varney, n'avaient rien à voir avec toutes ces négociations.
Mais non, pas du tout. Et en fait, ils étaient extrêmement discrets. Parce que ce sont des gens discrets par nature et par religion, je dirais, parfois. Et donc, non, les chrétiens, ils étaient pas tellement pro Saddam Hussein, etc.
Ils ont reproché en Syrie d'être proche du pouvoir,
alors que c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bachar el-Assad, à un moment donné, il a distribué des armes aux chrétiens pour qu'ils les retournent contre les musulmans et ils n'ont jamais voulu.
Une semaine d'actualité.
C'était un secret de Polichinelle, Marine de Varney. L'annexion de la Crimée par la Russie était préméditée. Vladimir Poutine l'a confirmé cette semaine. Moscou lundi, Muriel Pomponne.
Pour ceux qui en doutaient encore, fini le mythe des Criméens qui se sont soulevés spontanément contre l'arrivée à Kiev d'un pouvoir issu de la révolution du Maïdan. Vladimir Poutine explique clairement avoir dit aux forces de sécurité dans la nuit du 22 au 23 février, vers 7h du matin, « Nous sommes contraints de commencer le travail visant à ramener la Crimée en territoire russe ». 4 jours plus tard, le 27, un commando non identifié et lourdement armé s'emparait du Parlement régional de la Crimée. Ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine reconnaît la présence des services spéciaux russes dans le processus d'annexion de la Crimée. Dès le 17 avril dernier, lors d'une émission de dialogue avec les téléspectateurs, il avait reconnu que les hommes verts, les hommes polis, présents dans la péninsule à cette époque, étaient bien des Russes. Il avait précisé qu'ils étaient là pour assurer la sécurité du référendum. Depuis, le terme « homme poli » est entré dans le vocabulaire russe. Aujourd'hui, Vladimir Poutine va plus loin en reconnaissant être l'instigateur du processus d'annexion. Cet aveu a toutes les chances d'être bien accueilli par l'opinion russe, car il apparaît comme un homme de décision et le rattachement de la Crimée à la Russie est très populaire.
Suite d'une semaine d'actualité en Israël, mais pour parler de l'organisation de l'État islamique, Marie, vous allez comprendre pourquoi avec cette correspondance de Muriel Paradon.
La famille Moussalam nous reçoit chez elle dans son appartement de Neve Yaakov, une colonie israélienne à Jérusalem-Est. Elle habite ici parce que c'est moins cher qu'ailleurs, dit-elle. Une famille arabe modeste, apparemment sans histoire, qui a perdu un fils, Mohamed, 19 ans, parti au djihad en Syrie. Sa mère, In Moussalam.
C'est l'État islamique qui a poussé mon fils à quitter Jérusalem et à les rejoindre. On lui a promis de l'argent, une femme et une maison. Il nous l'a écrit depuis la Syrie. Sur Facebook.
Mohamed aurait été exécuté par l'organisation de l'État islamique parce qu'accusé de travailler pour le Mossad, les services secrets israéliens. Ahmad, l'un de ses frères, dément formellement.
Toutes ces accusations sont infondées. Je ne pense pas que le Mossad israélien enverrait un gamin comme mon frère espionner une organisation telle que l'État islamique. Mon frère n'était pas engagé politiquement, ni un fanatique religieux d'ailleurs.
Mohamed est décrit comme un garçon discret, influençable, qui serait parti rejoindre l'État islamique, séduit par de fausses promesses. Comme lui, il serait plusieurs dizaines d'Arabes israéliens à avoir rejoint le djihad.
Et selon certaines informations, l'assassin de Mohamed Moussalam pourrait être un mineur ayant un lien avec la famille de Mohamed Merah, le tueur de Toulouse en France. Suite d'une semaine d'actualité en Irak, on y revient, Marine Varney, avec l'assaut donné par l'armée contre la ville de Tikrit, la ville natale supposément de Saddam Hussein, aux mains de l'organisation de l'État islamique. Véronique Guémard a fait un point hier, vendredi.
Les militaires irakiens se disent confiants. Le temps est de notre côté, nous avons l'initiative, assure-t-il. La ville de Tikrit, qui s'étale le long des méandres du Tigre au nord de Bagdad, est bouclée de toutes parts, mais le commandement dit ne pas vouloir se précipiter. Nous n'avons pas besoin d'attaquer, cela pourrait faire des victimes dans les rangs de nos combattants, dit-il. 20 000 hommes sont à la manœuvre, des militaires mais aussi des milices chiites soutenues par l'Iran pour assiéger le fief de l'ancien président Saddam Hussein, occupé par les djihadistes depuis 9 mois, et pour en reprendre le contrôle. Une opération qui bénéficie aussi du soutien de tribus sunnites locales. Mais les djihadistes de l'organisation État islamique ont piégé des bâtiments et des voitures à l'explosif et posté des tireurs embusqués, ce qui ralentit la progression des combattants qui n'avancent qu'au rythme de 30 minutes par rue. Le ministre irakien de la Défense, Khaled al-Obeidi, en visite sur la ligne de front, a déclaré « Maintenant commence la deuxième phase de la bataille ». Selon l'armée irakienne, les combats à l'artillerie lourde se poursuivent dans le quartier industriel au nord-ouest de Tikrit, mais les bâtiments construits par Saddam Hussein et trois quartiers du centre-ville sont encore aux mains des djihadistes. Et
évidemment, la situation est à suivre dans nos journaux. Suite d'une semaine d'actualité, on va parler un instant de M. Poutine, car vous vouliez dire un mot sur lui. Oui. Ainsi, les petits hommes verts de Crimée étaient bien des Russes.
Oui, absolument. Et Poutine me fait penser à Saddam Hussein au moment où il fanfaronnait quand il avait l'intention d'annexer le Koweït.
Il provoquait toujours jusqu'au bout.
Voilà, hein. Il provoquait et puis il distribuait des cartes avec déjà le Koweït comme si c'était un acquis. Et je trouve que Poutine est exactement pareil vis-à-vis de la Crimée. C'est le même comportement qui tient à la fois et de la fanfaronnade et du désir expansionniste réel.
Alors la Crimée me fait penser à l'Ukraine. Je vous rappelle que l'Ukraine a reçu la première tranche de 5 milliards de dollars d'un prêt du FMI pour rétablir sa situation économique. Et on va terminer avec Tikrit. La situation évolue, on en parle dans les journaux ce matin. Mais c'est une ville symbole, Tikrit.
Oui, c'est un symbole extrêmement fort parce que Saddam Hussein a bâti sa légende. En fait, il serait né à côté de Tikrit, dans un tout petit village à peine connu. Mais les Irakiens eux-mêmes ont toujours dit, mais c'est une légende. Ce garçon, nous, on l'a jamais vu grandir à Tikrit. Voilà. Mais il fabulait beaucoup.
Il mentait beaucoup.
Il se prenait pour Nabucodonosor. Il faisait beaucoup de choses comme ça pour se constituer une légende.
Alors, on va évidemment continuer à parler des chrétiens d'Orient dans la deuxième partie de l'émission. En allant en Afrique, nous, on mélange toutes les destinations.
Oui,
j'aurais quand même
terminer,
vous connaissez le principe de l'émission, terminer cette première partie avec une déclaration étrange du pape, puisqu'on parle des chrétiens d'Orient, qui, à propos de son deuxième anniversaire, là, ces jours-ci, dit, je le cite, « J'ai la sensation que mon pontificat va être bref, 4 ou 5 ans, je ne sais pas, ou 2 ou 3 ans. » C'est étrange comme c'est une déclaration, vous ne trouvez pas ?
Oui, ben je pense qu'il se sent au bord du précipice. Je pense que il est conservateur d'un côté, mais de l'autre, il essaie de faire quelque chose.
Il y a de fortes résistances face à lui, y compris dans la curie, peut-être surtout dans la curie.
Exactement, surtout dans la curie. Et je pense qu'il n'est pas si rassuré que ça.
C'est étrange, d'ailleurs. On a l'impression qu'il se sent menacé.
Oui, mais je pense qu'il l'est. Réellement, de toute façon, de toute façon. Et pour en revenir aux chrétiens d'Orient, justement, je trouve qu'il y aurait beaucoup à dire à propos des papes et des chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient se sont sentis souvent abandonnés, non seulement abandonnés, mais méprisés. Méprisés par le Vatican. C'est-à-dire peut-être pas le dernier pape, mais les précédents.
Pourtant, ce sont les chrétiens des origines, si j'ose dire.
Exactement. Il y a eu comme une espèce d'inversion. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que eux, ils sont les chrétiens des origines et avec, ils ont fait presque vœu de pauvreté, etc. Et que au Vatican, où c'est exactement le contraire, c'est une espèce de déviance. Et moyennant quoi, ils ne reçoivent aucune protection de leur part.
Voilà. Marie de Varnay, nous allons faire une pause afin d'écouter quelques nouvelles du monde où il sera sans doute question de l'Irak et d'autres parties du monde. Et on se retrouve dans 3 minutes.
Avec plaisir.
À tout de suite. Merci pour ces informations. Retour à notre revue de 7 jours d'actualité avec bien sûr les reportages de la rédaction.
Pierre-Édouard Beldic.
Notre invitée est Marie de Varnay, écrivain voyageur, grand reporter, spécialiste, on peut le dire, de l'Irak. Elle a écrit « Chrétien d'Orient, voyage au bout de l'oubli » chez François Bourin, éditeur. Dans quelques minutes, direction l'Afrique, comme d'habitude, et rendez-vous avec vos messages. Mais tout de suite, la France, Marie, et bien sûr un retour sur l'accident d'hélicoptère qui a donc coûté la vie à 10 personnes, dont 8 Français, et parmi eux, 3 grands sportifs à qui a été rendu un hommage à l'INSEP, le centre d'entraînement des sportifs de haut niveau, précisément l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Reportage d'Antoine Grenier.
Un silence de plomb sous l'immense arche qui recouvre des équipements d'athlétisme plus habitués en temps normal à la sueur qu'aux larmes. Les portraits de Camille Muffa, Florence Artaud et Alexis Vastine et quelques fleurs déposées par les athlètes au pied de ces photos. L'hommage unanime du monde sportif aux 3 disparus a été placé sous le signe de la dignité et de la simplicité pour honorer des personnalités hors du commun, selon Jean-Philippe Gassien, président du conseil d'administration de l'INSEP.
C'était très émouvant, ça ne pouvait pas en être autrement, parce qu'il y avait derrière ces champions des êtres humains avec des qualités humaines exceptionnelles. Et hier, c'était le choc et je crois qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, les gens commencent à réaliser et ça ne fait que renforcer ce sentiment d'émotion.
Parmi les sportifs présents, nombreux étaient ceux à ne pas pouvoir parler. Ceux qui ont pu ont témoigné du réconfort apporté par cet hommage. Brahim Asloum, champion olympique de boxe et proche d'Alexis Vastine.
On avait besoin de se rassembler, on avait besoin de se voir, se serrer, penser à eux. C'est un peu dans notre ADN, cette solidarité, ce partage que les athlètes ont les uns avec les autres. Je pense que les 3 étoiles qui doivent briller doivent être contents de voir ce rassemblement pour eux.
Florence Artaud, Camille Muffa et Alexis Vastine seront encore honorés sur les terrains cette semaine. Patrick Kanner, le ministre des Sports, ayant annoncé qu'un hommage leur serait systématiquement rendu lors de toutes les compétitions sportives dans le pays jusqu'à ce week-end.
Dans ce contexte, il faut s'arrêter un instant sur la société qui produisait cette émission de télé-réalité Adventure Line Productions, Abla Jonaidi.
Depuis 40 ans, Adventure Line Productions adapte des jeux d'aventure à succès. La carte au trésor, Koh-Lanta, Fort Boyard, un créneau juteux. L'épisode de Koh-Lanta se vend 12 millions d'euros à TF1 qui en tire le double en recettes publicitaires. Mais le dernier drame qui a fait 10 morts s'inscrit dans une série noire entamée en 2013 lorsque la production de Koh-Lanta avait été suspendue après la mort d'un candidat puis le suicide du médecin de la production. Le chiffre d'affaires d'Adventure Line avait alors chuté de 40% puis le programme avait repris avec le même succès. Un arrêt définitif du programme aurait privé Adventure Line de la moitié de son chiffre d'affaires. Pour le moment, difficile de préjuger des conséquences financières qu'aura le dernier drame en date. La justice va établir les responsabilités et les indemnités à verser par les assureurs aux familles des victimes. La société, elle, pourrait, en vertu d'un contrat dit annulation, se voir rembourser les frais engagés qui s'élèveraient à plusieurs millions d'euros. Pas de quoi faire couler Adventure Line donc, d'autant que Koh-Lanta est maintenu pour les 2 prochaines saisons. Mais alors que la polémique enfle sur les jeux d'aventure extrêmes, l'image d'Adventure Line, elle, ne devrait pas sortir intacte.
Suite d'une semaine d'actualité avec Marie de Varnay, quelque chose me dit que ça ne vous intéresse pas tellement la télé-réalité.
Non, c'est le jeu du cirque. C'est rien de plus.
Là, c'est la réalité qui s'est heurtée à la télé, en fait.
Exactement.
Hein, ce qui est frappant, enfin, on peut trouver ça frappant, certains le font, c'est l'importance qu'a... Bon, c'est tragique, c'est un événement évidemment tragique, tout le monde est d'accord là-dessus.
Oui, absolument.
Mais l'importance qu'a pris cet événement, notamment à la télévision en France, cette semaine.
Mais parce que nous sommes narcissiques, nombrilistes, et nous parlons de nous-mêmes, nous adorons parler de nous-mêmes. Voilà, la télé parle d'elle-même. On n'en sort pas. On ne veut surtout pas ouvrir les yeux sur l'ailleurs. C'est beaucoup moins intéressant.
Voilà. Est-ce qu'il vous est difficile, Marie de Varnay, de parler des chrétiens d'Orient en France, justement, où on s'est réveillé aussi un petit peu tard, hein?
Les chrétiens d'Orient, oui, j'en ai parlé tard, mais je trouve ça, en définitive, très narcissique aussi, parce qu'on en parle parce qu'ils sont chrétiens, et parce que tout d'un coup, on les voit dans des positions de victimes, mais ils n'ont pas toujours été des victimes. Au Liban, ils étaient dominants et plutôt asservissants, et là, ça ne gênait absolument personne.
Pourquoi voilà. Avez-vous écrit en 2009 donc ce livre qui s'intitule « Parfois le silence est une trahison ». Vous aviez le sentiment de trahir en ne parlant pas de l'Irak.
Oui, absolument. Je trouvais que la désinformation qui sévissait à cette époque-là, parce que juste après 2003, il ne s'est pas dit grand-chose, parce que la France, qui a eu raison de le faire, justement, n'a pas voulu mener cette guerre avec les États-Unis. Donc, du coup, elle s'est désintéressée aussi. Et on n'a pas voulu savoir. Alors, parfois, le silence est une trahison. C'est une très belle phrase de Martin Luther King. Justement, on en parle en ce moment.
Avec un film.
Et il disait ça à propos de la guerre du Vietnam. Et je trouve que c'est un petit peu, effectivement, il y a un parallèle à faire. C'est-à-dire que on envoyait des pauvres gamins en recherche de légitimité, de cartes vertes, sur le terrain, se faire massacrer. Et en réalité, ils ne savaient absolument pas ce qui les attendait. Et en général, ce qu'ils voyaient se révélait être exactement le contraire de ce à quoi on les avait préparés.
Une semaine d'actualité.
Et nous partons pour l'Afrique comme chaque semaine à cette heure-ci, Marine Varnet. Nous allons revenir évidemment sur l'attentat de Bamako, un autre attentat tôt samedi dernier, il y a juste une semaine. Des assaillants ont tué 5 personnes, dont un Français. Reportage de David Bachet.
La Terrasse est un établissement très fréquenté de la capitale malienne, notamment par les Occidentaux. Bars, restaurants et boîtes de nuit, situés dans la rue dite rue Princesse, il attire des centaines de personnes, surtout le vendredi soir. L'attaque a eu lieu un peu après minuit, un homme commençant par jeter des grenades dans la rue avant de pénétrer dans l'établissement et d'ouvrir le feu. Cet agent de sécurité et ce chauffeur de taxi étaient à proximité au moment où a eu lieu l'attaque, il témoigne.
Ce qu'on a entendu, quoi.
Une explosion ?
Oui, une explosion, merci. Après une explosion, on a entendu des tirs, on a entendu aussi des tirs.
Ça a duré longtemps ?
À peu près 5 minutes comme ça.
Non, on a entendu le coup de feu en haut, les terrasses, boum boum. Après, les gens ont crié partout.
C'était des explosions fortes ?
Des explosions fortes, boum boum. Les gens sortaient, il y a des gens qui sont blessés. Ouais, on a eu peur ici, parce que nous on est là.
À quelques dizaines de mètres.
Je ne me suis pas approché là-bas, mais j'ai entendu le coup de feu. Bon, bon, j'ai eu peur.
L'assaillant a ensuite pris la fuite à bord d'un véhicule dans lequel l'attendait un complice. Les deux hommes, encagoulés, ont ouvert le feu une nouvelle fois sur une voiture de police qui se rendait sur les lieux.
Sur l'enquête et sur les circonstances de cet attentat revendiqué par le groupe islamiste Mourabitoun, correspondance mercredi de notre envoyé spécial Marie-Pierre Olfan.
Devant la dépouille mortelle de leur collègue et ami tué vendredi soir, les policiers maliens affichaient hier la même volonté, celle de continuer coûte que coûte leur métier. Sergent Haïdramé.
S'il arrive qu'on perde notre vie en servant la patrie et la population, c'est une désolation pour la famille, mais nous avons opté pour ça et nous allons tout faire pour d'abord nous sécuriser dans l'exercice de notre fonction, mais aussi de donner le meilleur de nous-mêmes pour que la population soit tranquille en ville ici à Bamako.
Plus le temps passe, plus l'arrestation des auteurs de l'attaque s'annonce cependant difficile, confie une source sécuritaire. Mais le commissaire de police Abderrahmane Alassane, lui, se fait un devoir d'y croire encore et insiste sur la nécessaire coopération des populations.
On est dans l'obligation de traquer ceux qui ont fait ce coup-là. Nous n'allons pas dormir sans pour autant mettre la main sur ces gens-là. C'est une traque difficile, mais pas impossible. On conseille seulement, on demande à la population d'aider les agents de sécurité pour qu'ils puissent traquer ces gens. Parce que sans renseignement, sans l'avis, sans l'accord, sans la détermination de cette population, ça serait très difficile pour nous aussi. On se donne corps et âme, mais il faut que la population nous aide.
Mais la vigilance suffira-t-elle ? Certains en doutent. C'est le cas de l'ancien ministre de la Défense, Soumaïlou Boubaï Maïga, qui s'étonne de l'absence de mesures de sécurité visibles depuis l'attaque. Ne pas céder à la panique, dit-il, ne veut pas dire faire comme si de rien n'était.
Alors j'ajoute aussi qu'un suspect de l'attentat a été tué par les forces spéciales maliennes hier vendredi, c'est à suivre dans nos journaux. Il faut retenir aussi, puisque nous parlons du Mali, la concertation sur le projet d'accord de paix d'Alger. Suite d'une semaine d'actualité, toujours en compagnie de Marie de Varnet, le terrorisme.
Oui, encore le terrorisme, mais nous l'avons créé, nous avons créé notre propre ennemi.
Vous trouvez ?
Oui, absolument. Enfin, en tout cas, ça, et le début, l'origine, la mère de tout ça, c'est l'Irak. Oui, oui, bien sûr. Et après, ça s'est répandu. Mais ce pays fantôme qui a subi beaucoup trop de souffrances, voilà, c'était le lit idoine pour le terrorisme.
Ça veut dire, Marine Barnet, que selon vous, depuis tout ça est né en fait en 1991.
Oui, absolument.
Ou même avant, le début de la guerre contre l'Irak.
Oui.
Des guerres contre l'Irak.
Bon, des guerres contre l'Irak.
C'est-à-dire la déstabilisation d'un pays.
Oui, parce que...
Et l'émergence des islamistes.
Ils n'ont pas réagi tout de suite. Il y a eu une espèce de stupéfaction, en réalité. C'est pour ça que je parlais de bombes qui tombaient sur des bras ouverts, etc. Parce que très longtemps, les Irakiens ont cru que les Alliés, et les Européens en particulier, allaient les aider à les débarrasser de Saddam Hussein. Et que, pourquoi pas, peut-être même plus tard, il serait une vraie démocratie qui ferait partie de l'Europe, voilà. Et non seulement on les a désillusionnés, mais on les a trahis, on leur a menti, et on les a blessés, on les a battus, on les a martyrisés. Et alors, au début, ils n'ont fait que subir. Et 91, ça a été, ils ont subi. 2003, je peux vous assurer que là, j'ai vraiment ressenti un début de révolte. Ils me l'ont dit, les gens me l'ont dit, il n'était pas question de Daesh à cette époque-là. Ils disaient simplement, là, ça se passera pas comme ça. C'est terminé. Ils étaient prêts à faire alliance avec le diable. Et c'est ce qu'ils ont fait.
Il faut rappeler que le pays est entré en guerre civile avec cette guerre américaine, voulue par George Bush.
Absolument. Vous savez, il y a eu des manifestations, on n'en a jamais parlé, mais juste après, il y a eu des manifestations pacifiques pour ouvrir des écoles, parce que les Irakiens voulaient emmener leurs enfants à l'école. Eh bien, il y avait des tireurs d'élite sur des écoles, qui ont tiré sur ces gens qui faisaient une manifestation pacifique. Voyez.
Donc, il y avait les chiites, il y avait les sunnites, certes, mais il y avait aussi une part de la population qui aspirait à vivre normalement.
Normalement, et pas de manière pire encore qu'à l'époque de Saddam Hussein. Voyez. Quand, par exemple, les Américains ont bombardé les deux fleuves.
Il faut rappeler de quel fleuve il s'agit.
Le Tigre et l'Euphrate, pardon. Les deux. Ce qui fait que c'était des pollutions et de la maladie à venir pour des générations. Et ils n'ont fait
comme
que des choses comme ça, comme au Vietnam. C'est-à-dire que on a détruit un tissu. On a non seulement détruit les gens, mais on a détruit un tissu pour que de toute façon rien ne repousse. Voilà, et bien voilà.
Et l'islamisme a poussé là-dessus.
Voilà. Alors, parce que c'était trop révoltant.
Pierre-Jean Nuzard nous expliquait aussi, grand spécialiste de la région de l'Irak notamment, nous expliquait dans Idée il y a quelques semaines, très récemment, que cette colère, cet islamisme se nourrissait aussi d'un sentiment d'injustice après les traités signés après la Première Guerre mondiale de partage de la région.
Absolument. C'est-à-dire qu'il y a d'une part, il y a eu ces cicatrices mal refermées que sont les frontières. Et quand j'ai dit mal refermées...
Beaucoup
refermé,
des frontières d'Afrique, mais il y a aussi les frontières du Proche-Orient.
Oui. Et d'ailleurs, elles sont remises en question, là. C'est évident que les pays vont pas être dessinés de la même façon. Donc, franchement, ça a été coupé en fonction des intérêts, on le sait maintenant, hein, en fonction des intérêts occidentaux. Et par-dessus ça, il y a eu ces guerres américaines, enfin en majorité américaines, absolument épouvantables, et basées sur de la mauvaise foi. Je crois que c'est ça, en plus. C'est-à-dire que l'idée de mission civilisatrice, etc., alors que c'était
d'exportation
de la démocratie. Et puis aussi, cette espèce de complexe de supériorité, alors qu'ils se sentaient largement aussi civilisés. Or, les Américains ont eu des comportements de barbares. Voilà. Alors, qui sont les barbares? C'était ça. Vous voyez?
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire. Un salut d'abord à Mohamed à Barakou au Bénin, un auditeur fidèle de l'émission. Merci pour votre courriel, Mohamed. Bonjour à Moutari Maman Moussa. Il écrit à propos de Boko Haram qui signifie, je le rappelle, l'éducation occidentale est un péché en Haoussa. Moutari Maman nous dit, pour nous Nigériens, c'est désormais Binku Haram, ce qui littéralement signifie vous suivre est haram, c'est-à-dire un péché. Vous suivre est un péché. Quelle belle trouvaille, me direz-vous, écrit Maman Moussa. Bonjour à Max Star à Dakar, à Charles à Nairobi, à Pelé au Cameroun et un salut à Daba Ousmane.
Sept jours en Afrique.
Et nous partons pour un pays que vous connaissez, il me semble, la Côte d'Ivoire, Marie oui. de Varnet. Pour parler de la condamnation à 20 ans de prison de Simone Gbagbo pour son rôle dans les violences post-électorales qui ont fait quelques 3000 morts en 2011. Correspondance de Frédéric Gard.
En s'adressant à ses jurés, elle l'avait dit par un mot de conclusion au terme de ce procès. Le monde entier vous regarde rendre la justice. Mais au moment de l'énoncé du verdict, le visage si souriant jusque-là de Simone Gbagbo s'est quelque peu crispé et le regard est resté fixe. Il faut dire que les jurés ont eu la main plus lourde que ce que l'avocat général avait lui-même réclamé dans son réquisitoire. Après plus de 9 heures de délibération, ce sont 20 ans, le double, qui sont infligés à l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, ainsi qu'au vice-amiral Fossigno et au général Dogboblé. Ce sont là les trois plus lourdes condamnations à ce procès, peine assortie de 10 ans de privation des droits civiques. Michel Gbagbo est condamné, lui, à 5 ans de prison, tout comme Abdoudramane Sangaré, le compagnon de route politique du couple Gbagbo. Lourde peine également à l'encontre de Geneviève Brogrebé, 10 ans, tandis que Pascal Affine-Guessant et Daniel Bonny-Clavry sont condamnés à des peines plus légères, 18 et 24 mois de prison avec sursis. Aussitôt, les avocats de Simone Gbagbo ont annoncé qu'ils comptaient se pourvoir en cassation suite à ces lourdes condamnations, des condamnations selon eux totalement injustifiées au regard de la faiblesse des preuves apportées à ce procès.
Et ce sont les militaires qui sont jugés désormais pour des crimes commis lors de cette période post-électorale. Suite d'une semaine d'actualité, Marie de Vernet.
Oui.
Et les premières victoires des troupes nigériennes et tchadiennes qui sont entrées dimanche au Nigeria pour en découdre avec les islamistes de Boko Haram, Laurent Corot, mardi.
C'est une longue colonne de véhicules militaires qui a passé la frontière à hauteur de Difa au Niger ce dimanche et qui a pris la route de Damasak. Des technicals, c'est tout terrain équipé de mitrailleuses, mais aussi des chars, des citernes d'eau ou des camions de transport logistique. La reprise de la ville n'a cependant pas été simple. Des sources sécuritaires tchadiennes parlent de 200 islamistes nigérians tués, alors que les pertes tchadiennes ne s'élèveraient qu'à une dizaine de militaires. Le personnel médical de Difa dit de son côté avoir pris en charge 33 militaires blessés sans préciser leur nationalité. D'autres sources disent que la zone avait été minée et qu'il a fallu plusieurs heures à la force mixte pour neutraliser les explosifs. La reprise de Damasak est en tout cas le premier succès de la force mixte sur ce nouveau front. La ville avait été prise le 24 novembre dernier par des islamistes déguisés en commerçants. Les soldats nigérians avaient fui avec une partie de la population.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Marie de Vernet, la Côte d'Ivoire.
Oui, je l'ai connu à la période Houphouët-Boigny. C'était sa splendeur, hein, absolument. Pourtant, Houphouët-Boigny était assez contesté. Mais c'est quelqu'un qui essayait de maintenir un prix juste pour les matières premières. Je veux dire un prix...
Alors, je précise que vous avez commencé votre carrière de journaliste au Monde en travaillant aussi sur les matières premières.
Sur les matières premières. Ouais. Et c'était intéressant de voir ça parce qu'il essayait et il y est parvenu d'ailleurs à cette époque-là, les agriculteurs s'en sortaient bien. Il y avait un revenu fixe qui était imposé. Il fallait absolument que les producteurs de cacao perçoivent tant. Voilà. Quels que soient les cours de la bourse, quel que soit le jeu des spéculateurs. Et à tel point que quand Houphouët-Boigny est mort, les spéculateurs se sont tous précipités, se sont beaucoup amusés et le prix du cacao a chuté. Et là a commencé les ennuis, parce que les troubles, c'est comme ça. Quand les gens ne mangent pas à leur faim, connaissent la famine, la misère, etc.
D'autant que sa succession n'avait pas été préparée du tout.
Non, du tout. Mais il avait un côté Louis XV. Il disait après moi le déluge et en même temps après moi le chaos, je le redoute, mais en réalité il était trop mégalo pour accepter de prévoir une succession.
Vous continuez à suivre ce qui se passe en Afrique ?
Oui, oui, parce que il y a toujours des liens, il y a toujours de l'affection, il y a toujours des gens que vous avez rencontrés. Voilà, c'est toujours extrêmement intéressant.
Et il y a aujourd'hui, c'est l'actualité du moment. Et quelle actualité, Boko Haram ? Je précise, parce qu'on a parlé, oui, de Boko Haram, que le groupe de l'État islamique, l'organisation de l'État islamique, a accepté l'allégeance de Boko Haram, qui est rentrée dans la nébuleuse criminelle de l'État islamique. Ça vous inspire un commentaire ? Cette extension de
cette
de
extension,
cet
mais en même temps dans
qu'il
une,
faut aussi relativiser,
qu'il faut relativiser, parce que tout ça est très médiatisé, parce que il faut comprendre aussi que c'est une guerre de communication que les Américains l'ont lancée et Daesh la poursuit en faisant une espèce de surenchère. Donc déjà il s'arrange pour filmer tout ce qui peut le plus révulser, choquer l'Occident.
À juste titre d'ailleurs.
Voilà. Par exemple, je trouve ça très intéressant, cette façon de se filmer en train de détruire les trésors archéologiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les marines avaient largement pillé le musée de Bagdad, qu'il y avait infiniment de trésors qui se sont retrouvés sur Internet. Je veux dire, ils sont pas les premiers. La différence, c'est que les états-majors avaient décidé de faire de l'argent. C'est autre chose. Eux, ils ont décidé de détruire et je vous dis, ils sont passés dans une surenchère à la fois de la destruction et de l'horreur.
Alors Marine Varnet, quelque chose me dit que vous n'allez pas aller voir le dernier film de Clint Eastwood,
non,
Le tireur d'élite américain.
Non. Non, c'est tout à fait hors de question. Je trouve ça absolument honteux. Parce que l'Irak, une fois de plus, est virtuel et un instrument. Voilà. C'est la création d'un ennemi. Les oraux repartent en guerre, les tireurs d'élite, etc. Et dans les faits, ces oraux n'ont absolument aucun état d'âme. Moi, je les ai vus faire. Ils tirent sur des enfants. Les enfants sont des cibles. Les femmes sont des cibles. Les vieillards sont des cibles. Les journalistes sont des cibles.
Les Américains répondent que c'est parce que ces gens-là, ces enfants, ces femmes, etc., présentaient un danger.
Oui, c'est complètement ridicule. Et Wikileaks l'a montré à plusieurs reprises.
Alors terminons sur une note plus douce, cette émission avec vous, Marie de Varnet, parce que vous êtes aussi une romancière.
Oui.
Vous vous évadez dans la littérature.
Je me console.
Ouais.
Parce que c'est vrai que les récits de guerre, c'est ce qu'il y a. La guerre, je suis en guerre contre la guerre. C'est ce qu'il y a de plus horrible. Et puis on se sent impuissant. Et l'art, c'est au contraire la construction humaine. C'est tout le contraire.
Alors vous avez très rapidement écrit une biographie, il me semble.
J'ai écrit une biographie très personnelle de Bach. Parce que c'est un célèbre méconnu. C'est quelqu'un qu'on a pris extrêmement longtemps pour, à cause de Glenn Gould, je pense, pour un monsieur un petit peu froid, mathématique, mécanique. Et en fait, non, c'était un homme très passionné, très colérique, qui envoyait sa perruque à la tête des gens quand il était
mais
un être humain. Vrai.
Qu'est-ce que vous nous proposez ? Vous travaillez sur quoi ?
Je travaille sur la suite de Appelez-moi James, qui est une biographie imaginaire, mais qui suit de très très près la réalité de James Tissot, qui est un peintre français qui a vécu à l'époque victorienne et qui a décidé de faire fortune en Grande-Bretagne et qui est arrivé et qui est maintenant beaucoup plus connu en Grande-Bretagne qu'en France. Et puis, j'écris un roman un peu plus personnel. Oui.
Les multiples facettes de Marie de Varnet, en quelque sorte.
Oui, voilà, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais il y a quelque chose que je voudrais vous dire encore à propos de l'Irak, c'est qu'il y avait des peintres en Irak. Et ils peignaient Bassora. Parce que Bassora, c'était la Venise du Moyen-Orient. Et à la maison, j'ai encore des peintures de Bassora. C'est extrêmement beau. Et si vous y allez maintenant, Bassora, ça n'existe pas. C'est de l'Agadou. Mais pardon, je finis sur quelque chose.
Moi qui voulais terminer sur une note légère,
oui, pardon. Mais je voulais vous dire simplement que les Irakiens étaient des, quand il y en avait encore en Irak, beaucoup d'entre eux étaient des peintres de grande envergure. Voilà.
Merci Marie de Varnay. Vous avez écrit, je l'ai lu dans la perspective de cette émission, Voyage au bout de l'oubli, les chrétiens d'Orient, chez François Bourin, éditeur. C'est un livre d'une romancière en plus. Enfin, les choses sont vraies, mais racontées avec l'écriture d'une romancière. Merci.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rowensky. Évidemment, retrouvez-nous sur le site de la radio, www.rfi.fr. Rendez-vous bien sûr avec le magazine Idées demain, dimanche, avec le philosophe Robert Misrahi, spécialiste de Spinoza et de la joie. Avec lui, nous parlerons de la liberté et du pouvoir de créer. Il en faut de la joie, je vous vois sourire.
Oui.
Demain, dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI. Thank you.